France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des communes prêtes à payer les futures mamans pour qu'elles accouchent dans leur maternité. Première en France dans quelques semaines, dans le département du Cher. Tout cela sur fond d'effondrement des naissances dans notre pays. Nous y sommes dans un instant. À suivre encore, direction la prison pour le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, condamné ce matin pour chantage, association de malfaiteurs, détournement de fonds publics. Il va aussi devoir démissionner. Il fait appel. Nous serons à Saint-Étienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu à l'Elysée en ce moment, et pour la 11e fois, nous y serons. Les théories masculinistes qui compliquent la prévention contre le sida. Et puis le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Bonjour Xavier Neumanni.
Bonjour.
Ses organisateurs annoncent à l'instant son annulation.
L'édition 2026 ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions appropriées, écrivent les avocats de la société organisatrice.
Mais sans doute pas la fin du feuilleton. Vous allez nous raconter tout cela dans le détail dans un instant. À partir de 13h30, nous parlons du remboursement intégral des fauteuils roulants par la Sécu. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. J'attends vos questions et surtout vos témoignages. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton. Nous passons toute cette semaine dans une crèche un peu particulière. C'est celle du zoo de Beauval.
Moi, je suis soigneuse au zoo avec les chimpanzés. Je travaille le week-end avec papa et les jours fériés, donc avec une crèche qui est ouverte toute l'année, tous les jours, c'était vraiment l'idéal pour nous.
13h50, c'est la France, Pougne Hérisson dans les Deux-Sèvres, la commune qui ne fait rien comme les autres, nous dira Cécilia Arbona. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le chanteur Jean est avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
De moins en moins de naissances en France. Un peu plus de 55 000 au mois d'octobre, c'est 3,6% de moins qu'il y a un an. Un chiffre qui n'a jamais été aussi faible depuis 1945. Alors les communes explorent toutes les solutions pour sauver les maternités. Par exemple, celle de Saint-Amand-Montrond, département du Cher, qui annonce qu'elle va verser la somme de 1 000 euros à toute femme qui accouchera dans sa maternité à partir du 1er janvier. Une somme sous forme de bon d'achat à dépenser dans les commerces locaux. Alexandre Rubin, la mesure doit être votée cette semaine.
Une drôle d'idée qui divise dans les rues de Saint-Amand-Montrond.
On peut leur donner 10 000 euros, 50 000 euros, c'est pas pour ça qu'ils font des gamins. C'est pas avec l'argent qu'on va rapatrier les gens.
Ça incitera les femmes à venir accoucher à Saint-Amand et maintenir la maternité. Sinon, les dames, elles devront faire 45 à 50 km pour aller accoucher, alors ça va poser des soucis.
Sauver la maternité de Saint-Amand, c'est tout l'objectif de cette mesure. Une première en France, selon le maire Emmanuel Riotte.
On aurait pu partir sur 200, 300, 400 000, ça n'avait pas d'intérêt. 1 000 euros par naissance, ça parle. On va peut-être faire le buzz, mais c'est le but, c'est de récupérer des mamans qui viennent accoucher dans les meilleures conditions.
Parce que derrière cette sorte de prime d'appel, il y a une vraie situation inquiétante à la maternité de Saint-Amand-Montrond.
Nous étions en 2010 à 400 naissances, dans peu de temps nous serons à moins de 200 naissances.
Pour le moment, les fermetures de maternité sont gelées en France pendant 3 ans, depuis une loi adoptée en mai par les députés. Mais ce risque de fermeture, ça pourrait bien devenir une réalité dans 2 ans et demi.
Le but, c'est d'éviter les fuites, que les mamans aillent accoucher à Nevers, à Montluçon. Une maman qui habite à Levé, elle va être systématiquement à Bourges, alors qu'on peut très bien l'accueillir à Saint-Amand.
Avec cette mesure, le maire espère bien atteindre les 300 naissances à Saint-Amand dès l'année prochaine. Le calcul est donc simple, ça devrait coûter 300 000 euros partagés entre la ville et la communauté de communes.
Un reportage ici, Berry. Voilà 3 ans maintenant que cette affaire empoisonne la vie de la ville de Saint-Étienne. Elle mêle la politique, le sexe et les règlements de compte. Son maire, l'ex-LR Gaël Perdriau, est accusé d'avoir fait chanter son ancien premier adjoint Gilles Artigues à l'aide d'une vidéo intime. Eh bien, le tribunal correctionnel de Lyon l'a lourdement condamné ce matin. 5 ans de prison, dont 4 fermes, et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec application immédiate. On va voir dans un instant quelles sont les conséquences concrètes de ce jugement avec vous. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct de Lyon, vous avez suivi le rendu de la décision ce matin. Il faut d'abord dire, Christophe, que la peine est plus lourde que celle qui avait été requise durant le procès.
Oui, le tribunal a retenu l'extrême gravité des faits. Vous encourriez 10 ans en votre qualité d'élu. Vous aviez un devoir d'exemplarité, de dignité et de représentation. Et la présidente enfonce le clou. Monsieur, vous ne pourrez plus être maire de Saint-Étienne. À la sortie, Gaël Perdriau semble sonné.
Je vous redis que je suis totalement innocent des faits qui me sont reprochés. Cette décision est incompréhensible. Et bien entendu, j'ai demandé à mes avocats de faire appel immédiatement face à ce que je vis comme une terrible injustice.
Coupable !
On l'entend, le maire s'éloigne dans une ambiance hostile. Arrive son premier adjoint, son ancien premier adjoint, Gilles Artigue, la victime du chantage, soulagée.
La justice s'est passée. Maintenant, tous les Stéphanois connaissent la vérité des faits et ses conséquences. Ils savent précisément ce que j'ai vécu pendant 10 ans. Et j'espère qu'on pourra tourner cette page. C'est très important pour ma famille et également pour la ville de Saint-Étienne qui a été, je pense, bien salie pendant tout ce temps.
Un soulagement que partagent les élus d'opposition et les agents municipaux présents à l'audience.
Christophe, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour lui ? Est-ce qu'il va en prison ? Est-ce qu'il va perdre son mandat de maire ?
Oui, avec l'exécution provisoire, comme pour Nicolas Sarkozy, Gaël Perdriau ira en prison. Le mandat de dépôt a été différé. Le maire déchu sera convoqué à une prochaine audience où il connaîtra la date et le lieu de sa détention. Il ne peut plus exercer ses fonctions. La préfète va acter sa démission. Gaël Perdriau perdra d'office tous ses mandats. Dans les 2 semaines, son premier adjoint doit réunir le conseil municipal qui élira une nouvelle équipe. Elle restera aux manettes jusqu'aux élections prévues en mars.
Christophe Vincent, en direct du tribunal judiciaire de Lyon pour Inter. Alors comment les habitants de Saint-Étienne accueillent-ils aujourd'hui ce jugement ? Notre reporter Mathieu Bonnour est allé à leur rencontre ce matin. Beaucoup veulent tourner la page.
Assis à la terrasse d'un café juste à côté de l'hôtel de ville, Pascal et Maria tiennent le journal local entre leurs mains. Avec ce titre, Gaël Perdriau, l'heure de vérité.
On en a marre, hein ?
On n'entend parler que de lui. Donc.
Que de lui en ce moment. Il aurait mieux fait de démissionner. Hein.
Quand ils font des conneries, il faut qu'ils payent. Hein.
C'est pas ça... parce qu'ils sont plus haut classés qu'ils n'ont pas le droit d'être jugés hein, au final.
Il y a eu Sarkozy, maintenant il y a Perdriau, donc oui, ils sont comme tout le monde. Hein. Si tu fais ce qu'il faut pas, tu payes.
Ils se réjouissent de voir que les hommes politiques n'échappent pas à la justice, tout comme Christian.
C'est surtout la fin d'une histoire. D'une trop longue histoire, c'est effectivement une bonne chose. On a l'impression que justice est enfin faite. En tout cas, moi, en tant que Stéphanois d'origine et en tant que citoyen stéphanois, je trouve quand même cette histoire a énormément terni l'image de la ville.
Et à quelques mois des élections municipales, Roger se sent soulagé. Ce retraité attendait une peine exemplaire après le comportement de Gaël Perdriau ces derniers mois.
Vu les élections qui arrivent, il fallait clarifier le truc avant, quoi.
Ce Stéphanois ne sait pas encore pour quel candidat voter à la mairie. Il espère une seule chose, que cette fois, les magouilles, comme il dit, sont terminées.
Mathieu Bonnour à Saint-Étienne. À Nantes, le festival de musique classique La Folle Journée aura bien lieu à la fin du mois de janvier. La programmation doit d'ailleurs être dévoilée demain. Le festival est dans la tourmente car son fondateur, René Martin, a démissionné. L'homme qui programme la plupart des festivals de musique classique de France est mis en cause par plusieurs salariés de ce festival. Harcèlement au travail, ambiance hyper sexualisée. Eh bien, 3 femmes prennent la parole à la radio aujourd'hui et pour la première fois depuis l'ouverture d'une enquête judiciaire. Vous les avez rencontrées, Morgane Guillaumard.
Ces 3 femmes ont collaboré pendant plusieurs années avec René Martin. Elles décrivent toutes la même ambiance de travail, une pression constante, des crises de colère régulières que nous raconte Margot.
Il lance des phrases hyper humiliantes dans le style « je vais en virer une » ou « vous êtes trop payé pour ce que vous faites ». Cette attitude, elle est répétée et elle installe un climat de peur et de soumission.
Elle pointe aussi du doigt l'ambiance hyper sexualisée avec par exemple le visionnage de films porno.
On se manifeste toujours avant d'entrer dans son bureau, donc il a bien conscience qu'on est présente. Lors de nos échanges, la vidéo, elle était en pause, mais c'était sur son écran d'ordinateur, donc j'avais visibilité dessus.
Selon elle, il y a eu aussi des regards insistants sur leur poitrine, des mains baladeuses sur leurs hanches. Un épisode a marqué Mathilde.
Une de mes collègues était en jupe et en fait, il prenait des photos des jambes de cette salariée.
Ces femmes ont mis du temps à prendre la parole et n'ont pas porté plainte contre René Martin.
Aujourd'hui, on parle sous une couverture avec un robot à la place de notre voix. pas, ça veut bien dire que nous ne sommes pas prêtes, d'autant plus quand on parle de quelqu'un qui est connu dans tout Nantes.
Contacté, René Martin n'a pas souhaité répondre à notre micro. Il nous a cependant renvoyé le communiqué de presse transmis fin octobre aux médias, dans lequel il dément toutes les accusations dont il fait l'objet.
Témoignage exclusif recueilli par Ici Loire-Océan. Après sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Delphine, Cédric Jubilard se voit retirer l'autorité parentale sur ses deux enfants. Décision ce matin de la cour d'assises du Tarn qui statuait sur les intérêts civils. Les avocats des deux enfants du couple, Louis, le petit garçon âgé de 11 ans, et Elia, la petite fille âgée de 6 ans, sont les avocats de ces deux enfants qui demandaient à ce que l'autorité soit retirée à Cédric Jubilard. La cour d'assises les a donc suivis ce matin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Pour la deuxième fois en deux semaines, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est donc à Paris aujourd'hui pour rencontrer Emmanuel Macron. Tout cela alors que Donald Trump, lui, met la pression pour qu'il accepte un accord avec la Russie. D'ailleurs, l'émissaire du président américain, Steve Witkoff, verra Vladimir Poutine demain après-midi à Moscou. Nous serons dans une minute à l'Elysée où nous attend notre journaliste Étienne Monin. Avant cela, pour mieux comprendre ce que vivent les Ukrainiens, je vous propose de nous rendre à Odessa, le grand port ukrainien au sud sur la mer Noire, visé de jour comme de nuit par les bombardements russes. Reportage Théo Renaudon.
Arcadia, au lieu de la fête à Odessa, la musique est soudain troublée par une alerte aérienne.
J'ai un peu la trouille, je vais me cacher là.
Un missile se dirige tout droit sur le quartier.
Je suis en train de me presser, mais c'est vous qui m'arrêtez.
Bon, là, tout le monde est en train de se réfugier dans le parking voisin du centre commercial.
C'est là-bas, là ? Je pense que c'est celui-là.
T'as enregistré ?
Le missile vient de s'écraser à quelques centaines de mètres.
On va y aller, hein.
Notre équipe arrive enfin à l'abri, dans le parking. Ce jeune couple se prend dans les bras.
Je m'appelle Sacha.
Anya.
On était venu voir un film au cinéma et il y a eu l'alerte. J'ai entendu qu'un missile arrivait sur nous, alors on s'est abrité immédiatement. On se cache pas tout le temps, mais seulement quand ce genre de truc arrive.
C'est terrible à chaque fois, on ne peut pas s'y habituer, on ne peut pas rester calme. C'est ultra anxiogène, tout le temps.
Bon voilà, c'est la fin de l'alerte, tout le monde est en train de remonter vers la surface jusqu'à la prochaine alerte, jusqu'à la prochaine explosion. C'est comme ça tous les jours ici, à Odessa. À Odessa, Théo Renaudon, RFI, pour France Inter.
Et ce matin, c'est la grande ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, qui a été touchée par un missile russe. Selon le gouverneur de la région, bilan au moins 3 morts et 15 blessés. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Vous êtes donc à l'Elysée. Les présidents ukrainiens et français sont à nouveau en tête-à-tête en ce moment, après un accueil soigné.
Et l'image qui restera sans doute de cette arrivée, c'est l'accolade chaleureuse du président français descendu dans la cour devant la garde républicaine pour accueillir son homologue arrivé en 4x4 blindé. Volodymyr Zelensky rencontre le président français dans un contexte de crise politique. Son entourage est éclaboussé par un scandale de corruption. Son bras droit, Andriy Yermak, en première ligne dans les négociations, a dû démissionner vendredi dernier. Les Russes ont soufflé sur les braises pour tenter de disqualifié Volodymyr Zelensky. Il vient donc chercher du poids politique à l'Elysée. C'est l'un des sujets du jour, asseoir sa légitimité. L'autre sujet concerne les paramètres du plan de paix américain. Les Européens ont rééquilibré la donne lors d'une journée de négociation à Genève. Des discussions ont eu lieu hier également en Floride, à haut niveau entre Américains et Ukrainiens. Mais plusieurs éléments sont à préciser, parmi lesquels les garanties de sécurité qui concernent directement les Européens et les territoriale.
Étienne Monin à l'Elysée pour Inter. Le bilan s'alourdit après l'incendie géant qui a ravagé 8 immeubles d'Hong Kong la semaine dernière. 151 morts. Désormais, ce bilan n'est pas définitif. Les autorités cherchent à la fois à comprendre comment le sinistre s'est déclaré. Ce complexe était en rénovation. Elles cherchent aussi à combattre la diffusion d'informations en ligne non vérifiées qui prospèrent depuis mercredi dernier. Nouveau bilan aussi en Asie du Sud-Est, touché par des pluies torrentielles. Plus de 1100 morts et plusieurs centaines de disparus au Sri Lanka, en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande. 600 morts rien qu'en Indonésie, en particulier sur la grande île de Sumatra. Plus de 300 au Sri Lanka où le président demande l'aide internationale. Il parle de la plus grande et de la plus difficile catastrophe de l'histoire de son pays. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou va-t-il échapper à son procès pour corruption? Il est accusé, ainsi que son épouse, d'avoir accepté des produits de luxe d'une valeur de plus de 220 000 euros, des cigares, du champagne ou encore des bijoux, tout cela de la part de milliardaires qui lui auraient fait ces cadeaux pour les favoriser. Eh bien, Netanyahou a officiellement demandé hier une grâce présidentielle sans même attendre une éventuelle condamnation. Son argument, ne divisons pas davantage le pays avec ce procès. Alors qu'en pensent les premiers concernés, les Israéliens? Reportage Michel Paul à Jérusalem.
Amnistie, grâce présidentielle ou simple arrêt du procès pour corruption, c'est là que la décision va être prise et spontanément, quelques dizaines de personnes se sont réunies par une soirée fraîche et pluvieuse devant la résidence du président Isaac Herzog à Jérusalem. Pour Yael, une jeune étudiante, les audiences au tribunal doivent se poursuivre.
C'est très décevant, mais ce n'est pas une surprise. C'est une autre forme de corruption. Mais tous les scénarios sont possibles dans cette réalité.
Yael propose, lui, d'en finir avec le procès. À son avis, ce sont les Israéliens qui vont devoir décider, en fin de compte.
Je crois que tout ce procès était une erreur. Mais quand il dit qu'il veut apaiser les tensions, c'est un paradoxe. Ça fait des années qu'il divise pour mieux régner. Je crois qu'il faut des élections et que le peuple décide s'il nous convient ou non comme dirigeant.
Il y a aussi des opinions beaucoup plus tranchées.
Je suis contre une grâce présidentielle ou lui accorder le moindre privilège. Il est pourri et il faut le jeter et pas le gracier.
Pour Maya, il s'agit tout simplement d'une manipulation concoctée avec l'aide du président Trump.
Reportage Michel Paul. Cette fois, le couperet est donc tombé après des semaines de bataille entre l'organisateur du festival de la bande dessinée d'Angoulême, les auteurs et la mairie, la société organisatrice, la société 9e art, mise en cause pour ses pratiques et cernée par les appels au boycott. Cette société jette donc l'éponge. Xavier Demagnon, on vous retrouve. Ses avocats viennent officiellement d'annoncer l'annulation du prochain festival.
Oui, c'est en quelque sorte une confirmation. Jeudi déjà, l'entreprise annonçait la mise à l'arrêt de la production à certains de ses partenaires. Et c'est donc là un long communiqué, deux pages, signé ce matin des avocats de 9e Art Plus, qui vient le confirmer avec cette phrase. Donc, l'édition 2026 ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions approprié. 9e Art Plus, délégataire de l'événement depuis plus de 20 ans et à qui appartenait cette décision, accuse ses financeurs publics d'être les seuls responsables de ce choix en ayant annoncé des subventions moindres en cas de festival organisé à minima et barré la route à l'entreprise pour les prochaines éditions. Depuis la mi-novembre, auteurs et autrices en appelaient effectivement au boycott, accusant 9e Art Plus de mauvaise gestion comptable, managériale et artistique. Les principaux éditeurs de BD avaient aussi annoncé leur retrait de l'événement. Quelle suite désormais pour Angoulême, principal festival de BD francophone? Les financeurs de l'événement sont en train de se parler, nous dit-on, du côté de la mairie d'Angoulême. Si l'édition 2026 est annulée, la priorité semble être de maintenir à flot le bateau pour éviter qu'il ne coule définitivement.
Merci Xavier Demagny. Pas de festival de la BD Angoulême l'an prochain, mais France Inter en soutien du monde de la bande dessinée avec une journée spéciale que nous consacrerons. Ce sera tout début janvier, le 7 janvier de mémoire. Le prix des carburants, ces prix vont-ils augmenter à partir du 1er janvier prochain? En tout cas, l'UFIP, qui représente les pétroliers, annonce d'ores et déjà, on vous en a déjà parlé, une hausse de ses tarifs de 5 centimes dans les prochaines semaines. Tout cela pour compenser ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire des investissements imposés aux industries qui polluent par le gouvernement. Tout cela pour décarboner, par exemple, financer des aides à l'isolation pour les logements les plus modestes. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour à
Après
tous.
Après les pétroliers dont je viens de parler, les producteurs de gaz et d'électricité font savoir qu'ils pourraient suivre.
Oui, on a confirmation, en tout cas aujourd'hui, que EDF, aux fournisseurs alternatifs, en passant par Engie, qui a d'ores et déjà annoncé des hausses, il y aura bien une répercussion à compter du 1er janvier de ces nouvelles obligations de financement de la transition énergétique par les énergéticiens sur les factures de gaz et d'électricité. Une cinquantaine d'euros à l'année en en moyenne pour les consommateurs, décrypte une source au sein du secteur, soit une augmentation plutôt limitée, hein, se défend-on, et qui ne touchera pas les contrats à prix fixe. Alors les fournisseurs ont le droit, hein, de répercuter cette montée en puissance du dispositif des certificats d'économie d'énergie, mais ce qui pose question pour Clarisse Berger, spécialiste des C2E à l'UFC Que Choisir, c'est vraiment le manque de transparence de ce système.
Ça relève vraiment de la stratégie commerciale des fournisseurs, de voir comment est-ce qu'ils répercutent ça. Ce qu'on critique par contre, c'est en effet cette opacité où en fait les C2E voilà, n'apparaissent même pas, il n'y a pas de ligne C2E sur les factures, donc c'est très compliqué de voir sur une période, même sur une année, à quelle intensité ils se répercutent d'un mois sur l'autre.
L'UFC qui appelle aussi à plafonner ces hausses tarifaires, et au sujet de la hausse à venir des prix du carburant dont vous parliez, qui a fait couler beaucoup d'encre ce week-end avec cette passe d'arme entre l'ERN et le gouvernement, Bercy revient à la charge aujourd'hui, appelant les compagnies pétrolières à la responsabilité, à la fois dans la répercussion de ces augmentations qui pourraient être plus modérées, comme dans la communication sur ce sujet.
Un décryptage signé Claire Chaudière. Autre dossier chaud pour le gouvernement, l'examen du budget 2026 de la Sécurité sociale qui revient à l'Assemblée nationale à partir de demain, et c'est aussi de ce futur vote que va dépendre l'issue de la réforme des retraites. Sera-t-elle supprimée ou pas? Eh bien, pour essayer de faire voter, de faire passer ce budget de la Sécurité sociale, le Premier ministre Sébastien Lecornu consulte aujourd'hui et notamment les responsables du Parti Socialiste. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Les responsables du PS qui sont en ce moment même en train d'échanger avec Sébastien Lecornu. Alors ils le font, vous me direz, régulièrement. Mais là, il faut, Laurence, montrer qu'on se parle, c'est ça?
Oui, on est clairement dans une séquence de communication politique, hein. Les journalistes parqués sur un bout de trottoir, les pieds dans le caniveau, pour capter l'image de la concertation. Les socialistes et le Premier ministre n'ont pas besoin de rendez-vous formel pour se parler et négocier. En revanche, il y a une base électorale à convaincre, une opinion de gauche aussi, à persuader qu'un budget, même imparfait à leurs yeux, doit être voté. À cette heure, Matignon n'entend pas passer en force, ni ordonnance, ni 49-3. Et Sébastien Lecornu croit encore en une voie de passage à l'Assemblée. Alors pour cela, il faut arracher l'abstention des socialistes et celle des écologistes. Olivier Faure, le patron du PS, estime à cette heure que le compte n'y est pas. La taxe Zucman, rejetée, doit être compensée par une autre mesure de justice fiscale. Ça, c'est la condition de leur abstention. Pour les écologistes, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ne se retrouvent pas dans le budget. Et surtout, ils ont dans leur groupe les anciens députés insoumis, pas enclin du tout à la mansuétude avec le gouvernement. Les communistes viennent d'arriver à Matignon et à cette question, allez-vous vous abstenir? Le patron Fabien Roussel a fait un signe de la main, a priori sans équivoque, ce sera non.
Laurence Perron, merci pour ces informations en direct devant Matignon, le siège du Premier ministre, donc avec les moyens techniques de Frédéric Quéroux. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. En France, environ 200 000 personnes vivent avec le VIH. Selon Santé publique France, 5 000 nouvelles contaminations par an. Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Vous nous expliquerez dans un instant que ce qu'on appelle le masculinisme, ces théories compliquent le travail de tous ceux qui essayent de prévenir la contamination au sida. Je voudrais d'abord qu'on comprenne qu'on peut vivre aujourd'hui et longtemps avec le sida, avec ce portrait. Portrait de Patrick qui habite à Nice. Il a 71 ans. Il est ce qu'on appelle un survivant. Il a été dépisté du VIH il y a 41 ans. Sébastien Germain l'a rencontré.
Patrick, look de rocker à 71 ans. Il fait partie de ceux qu'on appelle les survivants.
Moi, j'étais dépisté en 84. J'étais consommateur de drogue, de l'héroïne pour la cité. J'étais reçu par un psychologue. Donc, je lui demande pour combien de temps j'en ai à vivre. Donc, je le vois regarder ses chaussures. Il était gêné, évidemment. Il me dit, je sais pas, 2 mois, 3 mois, peut-être 1 an. Très rapidement, je pense, dans l'heure qui a suivi, dans la journée, je sais pas, je me suis dit que j'allais pas mourir, en fait. Mais j'avais d'autres projets, j'avais pas le temps de mourir, en fait.
Patrick milite, ACT UP, aide, il est de toutes les associations, de tous les combats contre la maladie. Alors quand il voit qu'il y a plus de 5000 nouveaux cas tous les ans en France...
Moi, je suis effaré par tous ces chiffres, par ces nouvelles contaminations et surtout par l'absence de prévention. Et si je peux terminer par ça, je pense qu'il faut continuer à se mobiliser, à lutter, d'autant plus que les associations sont moins et ne seront peut-être plus aidées demain.
C'est déjà en partie une réalité. Aide, première association française de lutte contre le VIH supprime en ce moment des postes, ferme des locaux dans plusieurs villes. Pour l'instant, la Côte d'Azur n'est pas concernée.
Sujet signé Sébastien Germain, ici Azur. Victor Delande, on vient d'entendre Patrick qui dit « Moi, je vais à la rencontre des jeunes parce qu'il y a un problème aujourd'hui avec la prévention. Plus 41% de contamination chez les jeunes de moins de 25 ans pour lui donner raison. Peut-être faut-il trouver la source de ce manque de prévention dans les discours masculinistes. Une enquête auprès de 1500 personnes âgées de 16 à 59 ans menée par le SIDAction nous explique que les théories masculinistes, les supériorités des hommes, c'est grosso modo le discours, ces théories ont un impact sur les jeunes.
Et ces théories, les associations qui donnent des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle les voient monter dans les collèges et les lycées ces dernières années. SIDAction a donc tenté d'objectiver ce phénomène. Résultat de cette enquête, un jeune homme de 16 à 34 ans sur 3 consulte des contenus masculinistes sur les réseaux sociaux. Et parmi les 25-34 ans, c'est 1 sur 2 qui estime que ce qu'il voit dit enfin la vérité. Pour Hélène Roger, porte-parole de SIDAction, il y a un lien direct entre ces discours très virils et la construction identitaire des hommes. Cela va influer ensuite directement sur leur comportement sexuel.
Ils pensent que finalement, être un homme, c'est oser prendre des risques, y compris des risques sexuels. Et on a aussi beaucoup d'impact sur le port du préservatif, puisqu'en fait, un jeune sur 6 pense que le préservatif est un signe de faiblesse. Donc, on va pas en mettre, puisque le mettre, c'est reconnaître qu'on est faible. Et on a 31% des 16-34 ans qui se sentent plus puissants quand ils ne portent pas de préservatif.
Et 40% des jeunes de moins de 25 ans ne se sont pas fait dépister dans l'année écoulée et ils ont eu des rapports non protégés avec des risques forcément augmentés. Des possibles contaminations. Pour contrer ces discours, SIDAction juge urgent de renforcer l'éducation à la vie affective et sexuelle. Encore faut-il que ces cours soient dispensés. L'association ainsi que le planning familial ont saisi le tribunal administratif de Paris pour faire respecter la loi de 2001 qui prévoit 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité de l'école au lycée. Le délibéré sera rendu demain.
Merci Victor Delande. C'est la surprise lorsque l'on consulte aujourd'hui le classement du championnat de France de Ligue 1. Après 14 journées, le leader n'est non pas le Paris Saint-Germain, ni l'Olympique de Marseille, encore moins l'AS Monaco, mais le RC Lens, leader de Ligue 1, après son succès hier face à Angers, profitant du faux pas notamment du Paris Saint-Germain face à Monaco. Les Artésiens, leader, on n'avait pas vu ça depuis 21 ans et cela réjouit forcément le président historique de cœur, même s'il ne l'est plus, du club de Lens, Gervais Martel.
C'est une grande fierté pour tout le monde. Je vais vous surprendre, je m'y attendais. Bah, surtout après les résultats de vendredi soir des concurrents directs. Mais on fait presque un sans faute, sauf un écart à mettre depuis le début de saison. Et on a une équipe super, qui n'a pas de faille, qui est un véritable rouleau compresseur. Et je pense que la saison, elle s'annonce vraiment sous des augures très très brillants. Il y a beaucoup de chamboulements, mais des chamboulements intelligents. L'arrivée de Pierre Sage qui apporte, je dirais, son savoir-faire, son expérience et surtout... Je pense que c'est un entraîneur qui met en confiance toute son équipe. Et je pense qu'on est à notre place et on fait des résultats qui sont vraiment linéaires et performants depuis le début de l'année. Je pense qu'on va faire une grosse saison.
Gervais Martel, l'ancien président du RC Lens, au téléphone de Julien Froment, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin, toujours très froide. Puis nous parlons du remboursement intégral désormais des fauteuils roulants avec nos invités. Venez témoigner si vous êtes concerné, si vous avez des questions notamment sur la mise en œuvre de cette mesure à partir d'aujourd'hui. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, nous passons la semaine dans une crèche un peu particulière, c'est à Beauval. Juste après cela, 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbona, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous emmenez dans les Deux-Sèvres.
À Pougne-Hérisson, 360 habitants, autoproclamée nombril du monde depuis 1990, la commune va encore se distinguer pour Noël.
Et avec vous Frédéric ?
Un chanteur. Il s'appelle Jean, il est rouennais, il sera en concert mercredi au Trabendo à Paris. Avec lui, c'est l'américain Rupert Holmes que nous écouterons, une chanson de la fin des années 70.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Bonjour, je m'appelle Eya Belkirat, je suis conseillère EDF pour les entreprises. Mes clients entrepreneurs veulent une gestion sans imprévu de leur budget électricité. Alors, je leur propose un contrat EDF adapté à leur activité, dont la part énergie est à prix fixe de 1 à 4 ans. Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur budget et être plus tranquilles. Appelez-nous au 3022.
EDF. Service gratuit, prix d'un appel local. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Contrat à prix fixe de l'énergie hors répercussion des évolutions réglementaires prévues dans le contrat.
Je m'appelle Damien.
J'ai 35 ans et ça fait 10 ans que je suis aveugle. Au départ, franchement, j'étais complètement désemparé. Il m'a fallu du temps pour accepter, pour m'adapter, pour me former et puis pour trouver un nouveau travail. Heureusement, j'ai été aidé par l'association Valentin AUI.
Vous aussi, vous voulez aider les aveugles? Inscrivez l'association Valentin AUI dans votre testament pour lui transmettre votre patrimoine. Renseignez-vous auprès de Dorothée à l'association Valentin AUI, 5 rue du Roc, Paris 7e.
France Inter, partenaire de Make to My Love, Canto Doué, le nouveau film d'Abdelatif Kechiche.
Ça va ?
En vacances, c'est bien.
Tu vas faire la fête un peu, hein ?
Ouais, on va sortir.
Après ses études à Paris, Amine est de retour dans le sud et rêve toujours de cinéma. Sous le soleil de Sète, il retrouve toute sa bande.
C'est mon petit cousin, il écrit des scénarios, il fait de la photo.
C'est mon futur copain à moi.
Donc vous êtes tous ici du coup.
Après Make to My Love, Canto Uno.
M'a pas raconté pour le producteur. C'est bien passé.
Make to My Love, Canto Doué, au cinéma le 3 décembre.
À l'amour !
Un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Avant de parler du froid, il faut d'abord parler de la pluie.
Oui, la perturbation rentre lentement, mais sûrement par le nord-ouest. De ce fait, les pluies gagnent petit à petit. La Normandie, les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. En Alsace, Val-de-Saône et Lorraine, la grisaille est encore tenace. Mais des éclaircies se développent ailleurs et le soleil se montre même généreux sur le quart sud-est. Léger bémol en Corse, comme sur la Côte d'Azur où le ciel est mitigé. Il laisse passer quelques averses, voire quelques coups de tonnerre. Et puis en soirée, un front pluvieux, plus marqué, rentre sur la Bretagne. Le vent se renforce de la Bretagne à la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France avec des rafales entre 50-70 km/h. Dans les terres, 80-90 sur la côte, localement 100 sur les côtes bretonnes.
Et donc des températures hivernales.
Et ben on entre quand même de plein pied dans l'hiver météorologique, donc la période des 3 mois d'hiver. Il fera 4 à 9 degrés sur tout le nord-est jusqu'aux Alpes et en Auvergne, 8 à 15 sur le reste du pays. Vous aurez 4 à Dijon, 5 à Nancy, 8 à Paris, 9 à Tours, Lyon, Clermont-Ferrand et Toulouse, 12 degrés à Cherbourg comme à Marseille, 16 degrés à Nice et Biarritz.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
1 100 000 personnes utilisent un fauteuil roulant dans notre pays. 150 000 en achètent un chaque année. 500 000 en font la location, nous dit le ministère concerné. Eh bien, changement majeur depuis ce matin. Les fauteuils roulants sont désormais inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité sociale. Ça veut dire qu'ils sont désormais pris en charge intégralement. Plus besoin de courir après les interlocuteurs pour boucler les financements. Bonjour Marc Véronne.
Bonjour.
Vous êtes vice-président d'APF France Handicap. Vous êtes vous-même en fauteuil depuis une dizaine d'années suite à un accident de moto, même si je crois que parfois vous parvenez à vous déplacer sans votre fauteuil. On va en parler ensemble dans un instant. J'attends aussi vos questions, vous qui nous écoutez. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. Vous êtes déjà nombreux, vous passez également via l'application Radio France. Marc Véronne, y avait-il vraiment des personnes en situation de handicap qui renonçaient à un fauteuil, faute d'argent, ou bien est-ce qu'il s'agit d'abord de faciliter les démarches?
Oui, il y avait des gens qui abandonnaient à force de chercher après l'argent. C'est surtout chercher après l'argent. On avait 5 à 7 interlocuteurs pour trouver des financements pour ces fauteuils roulants. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul interlocuteur, la CPAM.
5 à 7 interlocuteurs, par exemple?
Alors, par exemple, les CCAS, la MDPH. Bon, c'est des acronymes, mais
oui,
je veux dire que...
Donc ça veut dire quoi?
MDPH, Maison des Personnes en Situation de Handicap. CCAS, c'est le centre communal des communes. On avait aussi le fonds de compensation de la MDPH qui donnait aussi de l'argent. La CAF, éventuellement également.
Caisse d'allocation familiale.
On cherchait à trouver cet argent pour les fauteuils roulants.
Les fauteuils, ils étaient remboursés à combien?
Alors, pour un fauteuil roulant manuel, c'était 600 euros.
D'accord.
Pour un fauteuil roulant électrique, c'était 5000 euros.
600 sur combien?
Alors, 600 sur 5-6 000 à peu près.
D'accord. On n'avait que 600 euros de l'État sur 5-6 000 euros à sortir.
Tout à fait. Moi, mon fauteuil roulant, par exemple, il vaut 5 000 euros. J'ai été remboursé jusqu'à 4 000 euros.
Vous avez avancé la somme d'abord?
Alors, non, je n'ai pas avancé
ensuite,
la somme.
Et ensuite, comment ça s'est passé?
Il me restait un reste à charge entre ma mutuelle et la Sécurité sociale. Il me restait un reste à charge de 1 000 euros.
De 1 000 euros que vous avez payé de votre poche,
que
ou vous avez réussi à trouver d'autres financements?
Que j'ai payé de ma poche parce que c'était trop compliqué d'aller chercher des financements.
Nous sommes en ligne avec Laurence de Villette. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour.
Vous êtes en fauteuil électrique depuis 2011, vous militez aussi au sein de l'association APF France Handicap. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Laurence ?
Alors moi, j'ai une maladie évolutive, une sclérose en plaques. Et suite à une très forte poussée, en 2008, j'ai perdu la marche en une semaine et j'avais pas d'autre solution que d'être en fauteuil roulant.
Comment est-ce que vous avez réussi à financer le vôtre ? Comment ça s'est passé pour vous ?
Alors comme tout le monde, beaucoup de démarches. La CPAM, pour mon fauteuil électrique, sur 12 000 euros, il me prenait 3 000 euros. Et ensuite, la mutuelle et le fonds de compensation de la MDPH.
Au final, combien est-ce que vous avez dû débourser, Laurence ?
Alors, j'ai eu la chance, mais c'était juste, mais j'ai réussi à tout financer.
Vous avez réussi à tout financer, donc oui. Vous n'avez pas eu d'argent à débourser.
Mais bon, ouais. Je reconnais que la plupart de mes camarades ne sont pas dans mon cas.
Vous nous dites que tout ça était très rapide, c'est-à-dire qu'en une semaine...
Non, c'était pas en une semaine. En fait, moi, j'ai perdu la marche en une semaine.
Ouais.
Mais après, il m'a fallu de longues démarches pour...
C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez perdu la marche en une semaine, mais je voulais savoir combien de temps vous aviez dû faire sans votre fauteuil.
Alors, j'ai été hospitalisée. Ouais. Donc, tout le temps de l'hospitalisation, j'ai eu un fauteuil qui était prêté par l'hôpital. Et ensuite, j'ai eu un fauteuil manuel. Et mon dernier fauteuil, par exemple, j'ai dû attendre déjà 6 mois pour avoir un rendez-vous avec une ergothérapeute, parce que j'ai changé de modèle de fauteuil et passé à un modèle électrique à 6 roues.
D'accord.
Donc, il fallait revoir l'ergothérapeute et 6 mois d'attente pour avoir le rendez-vous.
Donc, 6 mois au final de délai, peut-être même un peu plus d'ailleurs, Laurence.
Je vais dire presque un an.
Presque un an. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir été en ligne avec nous. Marc Véron, comment ça se passe à partir d'aujourd'hui ? Il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, concrètement, pour tous ceux qui nous écoutent.
Il n'y a plus qu'un seul interlocuteur et cet interlocuteur va rembourser 100% du fauteuil. Si jamais ce fauteuil ne serait pas dans la LPPR qui a été...
C'est quoi la LPPR ?
Là, c'est la,
expliquer, Marc
Véron. La base
Véron.
De remboursement de la sécurité. Sécurité sociale, c'est-à-dire que chaque fauteuil roulant est dans une liste LPPR. Cette liste, on l'a mis à jour.
En gros, il y a les fauteuils que la Sécu rembourse et ceux qu'elle ne rembourse pas.
Exactement.
Et il faut que le fauteuil que vous achetiez soit dans la liste.
Aujourd'hui, 95% des fauteuils sont dans cette liste. Donc 95% des fauteuils vont être remboursés à 100% par la Sécurité sociale. Faut pas avoir peur que tel ou tel fauteuil, c'est 95%. Alors il y a toujours les 5% qui ne sont pas remboursés. On va vous parler de fauteuils pour la douche, par exemple. Malheureusement, on n'a pas réussi à le rentrer dans la LPPR pour l'instant. Mais c'est toujours un combat pour nous, c'est de pouvoir aussi avoir l'hygiène corporelle pour toutes les personnes en situation de handicap. Les fauteuils roulants de douche vont faire partie de nos prochains combats.
C'est un médecin qui prescrit le fauteuil ?
Alors, aujourd'hui, c'est un. Alors, dans la nouvelle règle, c'est un médecin rééducateur obligatoire et une ergothérapeute. Donc, ça sera un duo de ces deux spécialistes du handicap pour le remboursement de ce fauteuil. C'est aussi pour rassurer tout le monde, on va pas donner un fauteuil à 20 000 euros à une personne qui en a pas besoin. Parce que j'ai entendu ce matin dans le taxi, auparavant, on donnait des fauteuils et les fauteuils partaient à l'étranger. J'ai entendu ça de la part de mon taxi ce matin.
Ouais, il y avait la crainte dans sa voix d'abus.
Voilà, tout à fait. Je pense que avec ces deux spécialistes médicaux, on a plus de problèmes d'abus.
Donc ça, ce sont les garde-fous. Il y a deux spécialistes médicaux qui doivent dire cette personne a vraiment besoin d'un fauteuil. Et il y a un plafond pour la somme que ça n'incite pas les fabricants de fauteuils à exploser leurs tarifs maintenant. Alors, que la prise en charge est assurée à 100%.
Il y a un plafond sur tous les fauteuils existants. Et si jamais il y a besoin d'un fauteuil spécifique pour une maladie spécifique ou pour un handicap spécifique, là, il y aura aussi des devis envoyé à la Sécurité sociale et la Sécurité sociale va rembourser jusqu'à 100 000 euros. Donc, c'est vraiment des fauteuils très, très spécifiques.
Est-ce qu'on a une idée au global du coût de cette mesure ?
Alors, moi, j'ai pour habitude de dire que c'est pas un coût, c'est un investissement, parce qu'un fauteuil mal adapté pour une personne en situation de handicap, c'est d'autres problèmes derrière, d'autres problèmes médicaux. Donc,
et qui donc vont entraîner des dépenses de la part de la sécurité sociale.
Exactement.
Mais si on doit dire l'enveloppe accordée.
Alors, il y aura un coût forcément, parce que sur une année, mais ça va se réduire au fur et à mesure. Ça va pas te coûter plus cher qu'avant. Ça va coûter plus cher sur le reste à charge.
C'est ça.
C'est tout.
D'accord. Mais combien la sécurité sociale met? Vous savez pas nous le dire,
Marc Véron? Je pense d'une centaine de millions.
De millions d'euros,
oui,
pour cette mesure.
Exactement.
Martine est en ligne avec nous. Bonjour Martine.
Bonjour.
Vous nous appelez de La Ciotat, nous vous écoutons.
Oui, je vous appelle de La Ciotat et je vous appelle pour saluer cette mesure qui, bien évidemment, est tout à fait va faciliter la vie et le financement des fauteuils roulants. La question que je me pose, moi, c'est la question de l'entretien des fauteuils. Est-ce que les forfaits d'entretien vont être rehaussés? Parce que, par exemple, actuellement, quand on change les batteries d'un fauteuil roulant, ça coûte le forfait d'entretien annuel. Donc, ce qui veut dire que si on change les batteries qui peuvent être défectueuses au bout de quelques années, on peut pas changer un pneu ou on peut pas changer une commande qui devient défectueuse parce que ça ne fait pas partie du forfait. Donc, c'est vraiment aussi un problème qui est très important et je voulais savoir si la loi qui vient d'être votée, qui va se mettre en vigueur, tient compte de cette modification qui me paraît nécessaire.
Je ne sais pas si vous-même vous êtes en fauteuil ou certains de vos proches, Martine, mais ça se change souvent les pneus, ça se change souvent la batterie.
Alors les batteries, le problème des batteries, c'est qu'elles sont fabriquées de l'autre côté du globe.
Oui, comme beaucoup de choses.
En Inde et en Chine, en Inde et en Chine, grosso modo, elles transitent sur des porte-containers. C'est-à-dire qu'elles sont au chaud et au froid, elles subissent des variations de température qui font que quand elles arrivent en France, elles peuvent être défectueuses immédiatement. Ma fille est en fauteuil roulant, elle a une myopathie, elle a une dystrophie musculaire non identifiée. Uh-huh. Elle est en fauteuil roulant, elle a eu un fauteuil roulant l'année dernière au mois de mai. On a changé les batteries 5 fois parce que les batteries étaient défectueuses dès leur arrivée en France.
5 fois à votre frais, Martine ? Vous avez pu vous retourner contre le...
Non, pour le coup, comme le fauteuil avait moins d'un an, le fabricant nous a changé les batteries gratuitement. Mais ça veut dire que le fauteuil a été immobilisé, parce qu'il faut tester les batteries.
Ouais.
Donc le fauteuil a été immobilisé, donc ma fille n'a pas eu de fauteuil pendant quelques jours. Ensuite, il faut commander les batteries, elles arrivent, il faut les retester. Si ça marche pas, rebelote. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Mais alors les pneus, ça s'use comme des pneus de voiture. Ça se perce aussi. C'est-à-dire que si vous avez des pneus qui ne sont pas des pneus pleins, ce qui est des pneus avec une chambre à air, en fait, ce qui est plus confortable pour la personne, si vous avez des pneus qui sont des pneus à chambre à air, si vous roulez sur une épine, sur un caillou, sur un morceau
bout
de verre, Donc là, à ce moment-là, en dehors de la logistique qu'il faut mettre en œuvre pour récupérer à la fois le fauteuil et ma fille, c'est des dépenses qui impactent aussi le forfait.
Merci Martine pour cette question. Marc Véron, la question de l'entretien, est-ce que ça change ?
Alors non, ça change pas malheureusement. C'est aussi un combat qu'on doit se mobiliser pour que ça change justement. Parce que l'entretien d'un fauteuil, c'est vrai que c'est très cher, quoi.
Et vous avez bon espoir?
Et on a bon
sur
espoir.
Ce point,
oui, bien sûr.
Il y a des discussions encore avec le gouvernement?
On continue à se mobiliser là-dessus.
Question de Simone d'Aix-en-Provence. J'ai entendu dire que lorsqu'on n'en a plus besoin de son fauteuil, je suppose, c'est un message écrit, la Sécu ne les reprendrait pas. Est-ce vrai ou bien est-ce que la Sécu accepte des fauteuils dont on n'a plus l'usage?
Non, malheureusement, pour l'instant, il y a encore un circuit de recyclage à faire sur les fauteuils. Ça commence à venir, ça commence tout doucement à émerger un petit peu partout, un recyclage des fauteuils, mais c'est un travail de longue haleine.
Il n'y a pas des associations qui les collectent?
Si, pour l'instant, il y a des associations comme Envie et Autonomie. Je connais que celle-là pour l'instant, mais il y a des associations qui recyclent et qui revalorise les fauteuils également.
Mais c'est un peu embryonnaire, il faudrait que ça se développe.
Exactement.
La question des prothèses Marc Véron, comment ça se passe? Est-ce que les prothèses sont prises en charge et dans quelle mesure? Et est-ce que c'est pour vous, qui êtes vice-président d'APF France Handicap, un sujet?
Alors c'est un sujet aussi. Moi-même, j'ai une prothèse. Et donc, c'est Le souci des prothèses, c'est que c'est pris en charge à 100%. Sauf que les prix sont bloqués depuis X années et que les orthoprothésistes commencent à souffrir de ces prix qui sont bloqués.
Ça coûte combien une prothèse ?
Alors, une prothèse, ça peut aller jusqu'à 140 000 euros.
140 000 euros, d'accord.
Certaines sont prises en charge, d'autres ne sont pas prises en charge. Les prothèses à 140 000 euros, bien sûr, ne sont pas prises en charge. Ça va jusqu'à 27 000 euros, à peu près, la prise en charge d'une prothèse. Quand on parle d'une prothèse, on parle aussi de prothèse biomécanique, c'est-à-dire robotisée.
Vous avez pu faire financer votre prothèse.
Alors moi, j'ai pu faire financer ma prothèse par le biais de mon assurance, parce que moi, c'est lié à un accident. C'est toujours la différence entre une maladie et un accident, par exemple.
Donc lié à l'accident,
remboursement par l'assurance.
Donc ça pose un problème pour tous ceux
qui n'ont pas d'assurance derrière, que ça n'a pas été pris en charge. Tout à fait.
Est-ce que de plus en plus de Français sont en fauteuil? Est-ce qu'on a une idée de ça?
Non, pas plus de Français. On a aujourd'hui à peu près 100 à 150 000 personnes qui sont en fauteuil roulant. Ça n'augmente pas plus qu'avant. Il n'y a pas plus de gens qui sont en fauteuil. Le fauteuil, il faut savoir que c'est la continuité du corps. C'est la mobilité, c'est la liberté. Sans fauteuil, je reste coincé chez moi. Ouais.
C'est une promesse qu'Emmanuel Macron avait fait il y a quelques années qui se concrétise là. On a aussi beaucoup parlé il y a un peu plus d'un an maintenant au moment des Jeux paralympiques de grands changements pour les personnes en situation de handicap dans notre pays.
On attend encore le changement.
C'est vrai ?
Oui, bien sûr.
Rien n'a changé vraiment.
Alors c'est pas que rien n'a changé si les
à la fois concrètement et à la fois dans la société avec les autres, avec les valides.
Les plateformes de bus maintenant descendent. Alors qu'avant les Jeux Olympiques, ils ne descendaient pas. C'était souvent en panne. Il y a un manque de formation.
Vous parlez à Paris ?
À Paris, ouais. Sur Paris. Et même sur toute la France. Hein, parce que les palettes de bus, il y en a sur toute la France. Le regard a un peu changé. On nous aide un petit peu plus. Quand je dis on nous aide, la population nous aide un petit peu plus. Par exemple, pour monter dans le train, quand on n'utilise pas les avantages de la SNCF. Mais... on a encore 8 stations, enfin 9 stations sur 330 à Paris au niveau des métros. Ouais, donc, métro, c'est encore pas pour nous.
Beaucoup de choses à faire. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui, avec leur association, se battent pour financer ces prothèses ou ces fauteuils pour tous ceux qui en ont besoin. C'est Josiane qui nous écrit du Pertuis. Je fais partie d'un club avec lequel on a lancé une loterie pour une petite fille en situation de handicap grave pour lui offrir un fauteuil roulant. Bravo et merci à elle et merci à tous ceux qui font ces démarches. Marc Véronne, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vice-président d'APF France Handicap. 13h46. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton et il nous conduit dans une crèche toute cette semaine. Une crèche un peu particulière, c'est celle des enfants des salariés du zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Alice Cachaner nous y conduit, c'est une petite crèche, une dizaine d'enfants. Particularité, elle est liée à un site touristique, elle est donc ouverte tous les jours de l'année. Premier épisode, c'est l'heure de déposer les enfants.
Bonjour. Oh là là,
allez. On ouvre à 7h30 le matin jusqu'à 19h30 le soir. Autour, c'est calme. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a que votre lumière sur la colline, la lumière de la crèche. Oui. Après, parfois, on entend le bruit des lions ou autre. Voilà. Moi, je ne les ai pas entendus aujourd'hui.
Non, pas ce matin.
Ils avaient assez mangé.
Sûrement.
Et la plupart des parents travaillent en face, au niveau du zoo. Ils sont soit soigneurs, soit dans les bureaux, soit dans la sécurité. Il y a un petit peu tous les métiers du zoo.
On y va ?
C'est
Je suis Jean d'Angleterre, le papa de Gabriel d'Angleterre. Dis bonjour.
Moi, papa.
Voilà. Et donc, je suis papa de deux enfants, deux petites filles qui ont été toutes les deux à la crèche, ici à Beauval. Je suis responsable du service pédagogie. Oui, Tétine. Et donc c'est vrai que c'est super intéressant puisque le travail est juste en face. Donc de la fenêtre, ils voient le travail de papa et maman. Donc parce que ma compagne également travaille à Beauval. Et donc là, la crèche étant à côté de Beauval, il y a beaucoup de choses qui sont développées autour des animaux. Donc forcément, ça participe à cette passion pour les animaux. Et donc du coup, on partage ça avec nos enfants encore plus facilement, je pense, grâce à cette crèche à proximité.
Donc vous faites partie avec votre épouse des couples.
du zoo.
Ah oui, on s'est rencontrés à Beauval, on a fait notre premier jour ensemble. Et puis voilà, on ne s'est jamais quitté. Après, chacun a pu participer, aller dans la branche professionnelle qui lui convient. Et puis, et en effet, maintenant on a deux enfants. Deux enfants nés de Beauval.
Moi, c'est Alexandra.
Vous êtes la maman de...
De Thomas. Moi, je suis soigneuse au zoo avec les chimpanzés. Ça veut dire que je m'occupe d'eux, je les soigne, je les nourris, je nettoie leurs enclos, leurs lieux de vie. Et on prend soin d'eux, comme ils prennent soin d'ici de nos enfants, en fait.
Vous avez donc un métier où les horaires peuvent varier ?
On travaille le week-end avec papa et les jours fériés. Donc, c'est vrai qu'une crèche qui est ouverte toute l'année, tous les jours, c'était vraiment l'idéal pour nous.
Moi, je travaille dans les hôtels. Laurine.
Et vous êtes la maman ?
De Marceau. Je suis amenée à changer souvent d'hôtel, donc c'est plus pratique au niveau des horaires. Et après, on est amené aussi à travailler le dimanche, donc c'est vrai que c'est pratique. C'est très pratique d'avoir une crèche à proximité. Moi, je suis du côté d'Orbigny et on avait pensé à une assistante maternelle et elle partait à la retraite. Donc j'avais que cet espoir ici. Donc quand on m'a acceptée, j'ai été très contente pour Marceau. Surtout puisque niveau activité, sortie, c'est chouette. Et puis j'ai confiance dans le personnel qui l'emmène au zoo. Donc je sais qu'il sera bien, qu'il passera un bon moment. Et puis oui, c'est ça.
Sans cette solution, vous auriez fait quoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui...
J'aurais peut-être repoussé l'entrée au travail. J'aurais peut-être prolongé mon congé maternité.
Le deuxième épisode, toujours dans cette crèche, toujours à Beauval dans le Loir-et-Cher, ce sera demain avec Alice Cachaner.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi 13h50, Cécilia Arbona nous parle d'une personnalité, d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui, Cécilia, avec vous, nous sommes à Pougne-Hérisson, département des Deux-Sèvres, un village qui décidément ne fait rien comme les autres.
Autoproclamé nombril du monde en 1990, il écrit lui-même sa légende chaque jour entre imaginaire et impertinence. Alors que les municipalités, vous le savez, illuminent les rues pour Noël, eh bien Pougne-Hérisson préfère rester dans le noir. Pas de décoration électrique, mais des palettes de bois colorées et des pots de fleurs enguirlandés. Autre annonce déconcertante de ce matin. Le 15 décembre, la billetterie du festival 2026 va ouvrir, mais le public ne pourra acheter des tickets sans pour autant connaître la programmation. Le village, à 40 km au nord de Niort, applique sa devise à la lettre « Il faut le croire pour le voir ». Ceux qui s'aventurent sur la départementale 748 doivent s'attendre à tout et à n'importe quoi. Et ce projet loufoque a germé il y a 35 ans dans la tête d'un conteur originaire de Vendée.
Tout cela en s'inspirant d'histoires locales recueillies.
Oui, Yannick Jolin a toqué aux portes des maisons et il a demandé aux anciens de raconter leur jeunesse en Gâtine où poussent les cailloux, ces chirons à fleurs dans les prés. Une de ces pierres rondes sort sa tête sur la place du bourg de Hérisson et cette espèce de nombril proéminent est devenu un trésor local. Si l'on colle son oreille à la roche, on entend, paraît-il, les gargouillis du ventre de la terre. À 67 ans, Yannick le troubadour se souvient de ses débuts. J'ai commencé à organiser des spectacles en patois du Poitou, le « je » et le « nous » se disent « i » et donc ça donne « i creuse »,« i creusons », »,« i faisait », »,« i faisons ». Le public a adoré cette manière de s'exprimer et y parlons tous ainsi maintenant.
Et les habitants se sont appropriés ces histoires.
Oui, c'est ce que confirme Valérie Caquineau, enseignante auprès d'enfants en difficulté. Elle travaille dans 8 écoles des alentours. C'est la présidente de l'association Le Nombril du Monde. « On a quitté la Sarthe », raconte-t-elle avec mon mari, « pour élever nos 3 enfants ici. C'est un pied de nez à ceux qui pensent qu'il ne se passe rien dans les campagnes, que l'accès à la culture est réservé aux citadins. Eh bien non, nous débordons d'idées. Un jardin sonore a été créé. Il attire 3000 scolaires chaque année. »
Et Pougne-Hérisson a fait des petits, si je puis dire.
Oui, les communes voisines jouent le jeu à fond, comme le libraire de l'Antidote à Parthenay, à 15 km de là. Stéphane Charrier explique que les murmures des histoires traversent les champs et passent la porte de sa boutique. « Nous avons, dit-il, de bonnes ventes sur les livres jeunesse, les contes et les légendes, ça marche et ça c'est grâce aux amis du Nombril. Ils éveillent la curiosité de nos clients. En 35 ans, Pougne Hérisson s'est tricoté un petit nom sur le chemin des contemplations et a tenu son pari, réenchanter un territoire qui ouvre la goule, je traduis la bouche, aux histoires et rapilote, je traduis encore, rassemble les gens.
Un peu de parler du Poitou avec Cécilia Arbona. Dans ce C'est la France, lui aussi nous tricote chaque jour des histoires. C'est une chanson, Frédéric Pommier, avec aujourd'hui un jeune chanteur, Jean, à votre micro.
Il est originaire de Rouen et il est à la fois chanteur, rappeur et guitariste. Il a sorti son tout premier album au printemps. C'est quand même bizarre, c'est le titre. 12 chansons qu'il donnera à entendre mercredi soir au Trabendo à Paris. Et il a souhaité me parler d'un morceau de l'américain Rupert Holmes, Escape the Piña Colada Song. Jean aime bien l'histoire qu'il raconte.
C'est un mari qui s'ennuie un peu avec sa femme. Et un soir, il lit le journal pendant que sa femme est à côté. Et il tombe sur une annonce d'une dame qui cherche de l'aventure à s'échapper, qui adore les piña coladas. Toute une petite liste de détails. Et lui, il lit ça et il se dit, putain, moi aussi, quoi. Du coup, le lendemain, il réfléchit, il sent pas bien, mais il écrit quand même une lettre pour lui répondre. Il dit, moi aussi, j'adore piña colada, les dunes, tout ça. Puis on se retrouve dans un bar. Et en fait, c'est sa femme. Du coup, ils se retrouvent comme ça tous les deux. Ils disent, ah, bah, je savais pas que toi aussi t'aimais la piña colada, les dunes, tout ça. Et souvent, on passe beaucoup de temps à chercher des choses parce qu'on a l'impression qu'on les a pas, alors qu'elles sont juste à côté de nous. Je trouve que c'est un beau message, mais c'est un truc qui me parle dans la vie aussi. Donc, je trouve ça mignon. I was tired of my lady. We've been together too long. Like a worn out record.
C'est en 1979 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Mais oui, une chanson dans laquelle Jean retrouve finalement beaucoup de lui-même.
Moi, c'est un peu l'histoire de mon adolescence, enfin de l'adolescence de plein de gens. D'avoir l'impression d'être tout seul, de ne pas être accompagné, alors qu'en fait, on a déjà tout ce qu'il faut. C'est un peu ça, moi, je suis toujours senti un peu persécuté alors que j'avais tout ce qui était nécessaire. Même dans mes couples, en général, mes histoires... Souvent, avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas parce que je suis pas en règle avec moi-même alors que c'est pas une question de ce qui t'entoure. Souvent, ce qu'on a déjà, ce dont on a besoin, il suffit juste de le comprendre, quoi, de l'apprécier. C'est un peu ça.
Et vous, n'êtes pas en mesure de l'apprécier au moment où ça se présente ?
Ouais, j'ai beaucoup de mal. En tout cas, j'essaye de plus en plus, mais en général, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Même quand je pars en vacances, du mal à profiter. Souvent, deux semaines après, je me dis, putain, c'était vachement bien. Sur le moment, rarement, quoi.
Vous avez du mal à profiter du moment présent, finalement.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que pour vous, cette chanson-là, c'est un peu un modèle de chanson ?
Bah, moi, ce que j'aime beaucoup et ce que j'essaie de reproduire, c'est ce côté message profond et un peu sérieux sur une sorte de légèreté musicale, quoi. C'est ça que j'aime bien. She walked in the place. I knew a smile in an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady. And she said, oh, it's you. Vous aimez bien l'aventure? De moins en moins, mais sortir de chez moi, aller un peu n'importe où, pas savoir où je vais, plus ce genre d'aventure.
Ça, c'est quelque chose que vous avez fait souvent?
Ouais.
Mais que vous faites moins ?
Ouais, je deviens un peu routinier. Ouais.
Ça vous rassure ?
Ça me rassure, puis ça m'encadre.
Cette chanson-là, elle vous met dans quel type d'énergie ? Dans quel type d'émotion ?
Moi, je la chante fort quand je l'écoute chez moi. J'aime beaucoup. Donc, moi, elle me fait bouger la tête. Après, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, je souris quand je l'écoute.
Escape de Pina Colada Song, Rupert Holmes, c'était donc Frédéric, le choix de Jean.
Jean qui sera en concert mercredi prochain au Trabendo à Paris, où il jouera les titres de son premier album, c'est quand même bizarre.
C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je vous dis à demain Frédéric, et je vous dis aussi que Stéphanie Duncan est là, juste après les infos de 14h, le thème de cette semaine, la création de l'OTAN en 1949.